voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Le 14 janvier 2011, le président tunisien Ben Ali quitte le pouvoir en Tunisie alors que la rue gronde depuis des semaines. Et nous allons voir ce soir comment se porte le pays 10 ans plus tard. Pour l'instant, retrouvez notre invité sur la crise sécuritaire en Centrafrique.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Anissa Georges de Loguélé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien Premier ministre de la Centrafrique et chef de file de l'opposition. Depuis quelques semaines, la Centrafrique est à nouveau plongée dans le conflit. Une coalition rebelle, la CPC, composée de 6 des 14 groupes armés encore actifs, menace de marcher sur Bangui. Des tirs ont été d'ailleurs entendus mercredi matin dans la périphérie de la capitale. Comment qualifiez-vous la situation actuelle dans votre pays ?
Je trouve que c'est une situation très regrettable parce que nous étions dans un processus de démocratie. Il n'y a pas meilleur processus que les élections. Hein, et nous avons fait les élections, même si elles ne s'étaient pas bien passées, même si nous avons déposé des recours. Et tout cela fait partie du processus et l'atteinte aux libertés publiques et surtout aux vies des Centrafricains est quelque chose que je condamne.
Et qui est responsable, d'après vous, de cette reprise des violences ?
Bon, je pense que, bon, déjà, j'ai vu qu'il y avait des groupes armés qui ont signé, qui se sont mis ensemble. C'est des groupes armés qui discutaient régulièrement avec le gouvernement, avec tous ceux qui ont contribué aux accords de Khartoum. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché entre pour que ça prenne cette tournure. Je ne sais pas pourquoi, depuis qu'ils ont commencé, il n'y a pas eu une amorce de dialogue pour éviter qu'ils ne commencent à marcher sur la capitale. Or, on se pose beaucoup plus de questions qu'on ne trouve de réponses. Écoutez, je note simplement qu'à la veille des élections, le président, l'ancien président, a fait une déclaration pour indiquer qu'il soutenait la CPC. Et donc, j'ai entendu cette déclaration sur les réseaux sociaux. Cette déclaration vient de lui. Ça veut dire qu'il a, carrément annoncé qu'il soutenait la CPC.
Certains de vos compatriotes affirment également que l'objectif de la CPC serait de contrôler la capitale Bangui et de faire tomber le pouvoir de Faustin Archange Touadéra avant une éventuelle confirmation de sa victoire par la Cour constitutionnelle la semaine prochaine.
Je suis incapable de vous dire quels sont les objectifs de la CPC. Je vous ai dit que moi, j'ai été candidat à l'élection présidentielle, que je suis arrivé deuxième au premier tour, que je conteste les résultats, que j'ai déposé un recours, que 9 d'entre nous, candidats, avons déposé un recours collectif et nous attendons que la Cour se prononce sur nos différents recours parce que nous estimons que ces élections doivent être reprises, tout au moins sur le premier tour. Donc, nous faisons de la politique. Maintenant, les objectifs de la CPC, je ne peux pas vous dire.
Comment ces groupes armés ont pu devenir invincibles, du moins pour le moment, face à la MINUSCA, les forces partenaires russes et rwandais, mais aussi face au FACA, les forces armées centrafricaines. Est-ce que vous avez une explication ?
La seule chose que je peux dire, c'est que ces groupes armés n'ont pas toujours été si fortes. Elles le sont devenues petit à petit, alors qu'il était question d'un accord de paix depuis 2 ans. Il ne devait plus y avoir d'accord de groupes armés. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la gestion de cet accord de Khartoum par le gouvernement. Le président de la République reçoit régulièrement ses chefs de guerre. Ils ont des relations, ils auraient pu rentrer en contact avec eux pour arrêter ce qui se passe. Donc nous sommes tous très surpris de la manière dont les choses avancent aujourd'hui. À l'intérieur de l'opposition démocratique, nous invitons, et à la suite de la Cour constitutionnelle, nous avons toujours invité les uns et les autres à se parler. Nous avons toujours demandé au président de la République de prendre l'initiative d'un dialogue politique inclusif qui permettent à tout un chacun de s'exprimer. Vous savez, nous, les politiques, nous nous exprimons par la parole. Les autres s'expriment par les armes. Pour éviter les armes, il aurait fallu que un dialogue politique soit organisé pour que chacun exprime sa frustration et qu'ensemble nous trouvons des solutions pour gérer les frustrations des uns et des autres. J'ai vu que résolument le président de la République n'en veut pas. Il ne veut pas de dialogue politique du tout. Tout le monde l'a réclamé, l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, la communauté internationale et maintenant les groupes armés. Tout le monde réclame. Quand on réclame tous un dialogue, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part.
À ce stade du conflit, est-ce qu'une solution politique est encore possible ?
Bien sûr, une solution politique est toujours possible. Vaut mieux une solution politique à la guerre. Et tout ce qui est conflit armé, c'est beaucoup de vies humaines qui sont perdues, c'est des dégâts matériels, c'est la destruction de l'économie. Nous sommes déjà l'une des économies les plus pauvres au monde. Évitons de la violence et créons des conditions d'une discussion. Je pense que c'est plus sage et plus raisonnable.
Anissé Georges Dologuélé, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Ancien Premier ministre centrafricain et chef de file de l'opposition à Bangui. Merci à vous.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h, bientôt 15 à Paris et à Tunis. Et nous débattons ce soir dans le grand rendez-vous de la Tunisie post-Ben Ali, contraint il y a 10 ans exactement de quitter le pouvoir sous la pression des manifestations à travers le pays. Et nos invités sont déjà en ligne. Il s'agit de Abdelaziz Belkodia, écrivain, co-auteur de l'ouvrage 14 janvier, l'enquête. Monsieur Belkodia, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, Firas Kefi, journaliste et activiste politique. Bonsoir Firas. Bonsoir à vous Mohamed Larbi Awat, chercheur en sécurité et président de la SILEX, l'Association de solidarité pour l'intégration par les langues, l'éducation et la culture. Bonsoir Monsieur Awat.
Oui, bonsoir.
J'espère que je prononce bien votre nom. Monsieur Awat. Très bien.
Oui, Awat, ouais.
Et enfin, nous avons également avec nous Adèle Tifui, qui est historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3, ici en France. Monsieur Tifui, bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Tifui. 10 ans donc que Ben Ali a été chassé du pouvoir, il a fui pour l'Arabie Saoudite où il est mort l'année dernière. Je vais commencer à vous, Monsieur Kefi, qui est à Tunis. Comment cet anniversaire a été célébré aujourd'hui dans le pays confiné à cause de la crise sanitaire ?
Il est forcé de constater aujourd'hui que, puisque la situation pandémique l'impose, il n'y a pas eu de manifestation dans la rue, du moins de partis politiques ou même de célébration entre guillemets officielle. Il y a eu une seule manifestation, c'était et c'est l'un des grands sujets aussi qui se pose toujours aujourd'hui, 10 ans après, des blessés de la révolution qui ont bravé l'interdiction de manifester pour faire exprimer aujourd'hui leur ras-le-bol devant le piétinement de la situation de la justice transitionnelle en Tunisie, mais globalement, la situation pandémique l'oblige. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de manifestation ou de célébration particulière, comme il y a 10 ans, où le jour où Ben Ali a été chassé du pouvoir, on était en couvre-feu, donc il n'y a pas eu aussi de manifestation populaire, ni ce jour-là, ni les jours d'après, donc plutôt timidement.
Plus de manifestations comme il y a quelques années encore. Comment expliquez-vous cela ?
Aujourd'hui, il faut dire que si on peut tirer un bilan général un peu de 10 ans, on peut dire qu'au niveau de liberté, il y a de réelles avancées. La liberté d'expression, la pluralité politique sont aujourd'hui des réalités que les Tunisiens vivent tous les jours. Mais les slogans qui ont été brandis en 2010 et début 2011 parlaient également de dignité. Aujourd'hui, les inégalités régionales persistent.
Donc, M. Kefi, ce qu'on comprend, c'est que les Tunisiens ont l'impression qu'il ne sert plus à rien de manifester leur joie pour cet anniversaire, parce que les objectifs n'ont pas été atteints.
Je suis pas peut-être aussi tranché. Je serais pas peut-être aussi tranché, mais il y a des motifs de satisfaction quand même dans ces années-là. Mais la situation économique et sociale n'a pas été résolue pendant ces années-là, parce que il ne faut pas oublier que Ben Ali a laissé un gros tribut, un grand héritage aussi
Nous allons en parler. Je propose qu'on écoute M. Tifi, qui est historien. Pour de nombreux Tunisiens, M. Tifi, 10 ans après la chute de Ben Ali, tous les voyants sont au rouge. Aucun secteur n'est épargné, que ce soit la santé, l'éducation, l'économie, qui est aujourd'hui fragilisée. Je partage avec vous la une du principal journal tunisien, La Presse, de ce 14 janvier, pour évoquer cet anniversaire. La Presse qui dit « La révolution tunisienne, 10 ans après, maigre bilan ». Désespoir généralisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce tableau que dresse l'OTAN ? Ce bilan est-il fidèle ?
Oui, bon, c'est un bilan mitigé. Et le plus important, c'est pas de juger le bilan, est-ce qu'il est mitigé et tout ou non. C'est surtout de comprendre qu'est-ce qui s'est passé après la révolution pour avoir ce blocage. Il faut insister, à mon avis, sur un premier élément, c'est que la Tunisie, qui était le berceau de ces révolutions, était le pays le seul qui a été épargné des violences. Et cela parce que entre le 14 janvier 2011 et octobre 2011, les premières élections, on a vécu une certaine symbiose entre la culture de l'État et la révolution. La révolution tunisienne était dans la culture de l'État, dans la culture des institutions, et la société civile a joué un rôle très très important, contrairement aux autres pays arabes qui ont sombré un tout petit peu dans la violence à cause de la survivance de ce qu'on appelle les cultures pré-étatiques, soit le communautarisme, soit le tribalisme, soit... Voilà, donc la faiblesse. En Tunisie, il y a l'esprit des institutions, l'esprit de la loi, l'esprit de la constitution, et ça c'est très important. Moi, à mon avis... Le vrai problème en Tunisie a commencé après les premières élections en octobre 2011, où on a assisté à la montée d'une force qui représente une culture pré-étatique, c'est le mouvement Nahda islamiste. Pardon. Ce mouvement a montré dès le début 2012, c'est ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir et le contrôle de l'État. Et il a fait des nominations suspectes partout. Donc on assistait là à une remontée de cette problématique de pouvoir, alors que on est dans une situation de reconstitution institutionnelle et juridique pour garantir la transition démocratique. Et deuxième volet, c'est de s'intéresser à la gestion des affaires publiques, y compris l'économie et tout. Donc le problème, c'est cette montée de l'islamisme qui a orienté la vie politique vers le contrôle de l'État. Et c'est associé.
Donc pour vous, la dictature qu'on attribue à Ben Ali a été remplacée par l'islamisme, le radicalisme ?
Pas par l'islamisme, parce qu'il ne dominait pas totalement la situation. Mais en 2012-2013, les islamistes ont montré ce qui les intéresse le plus, c'est de contrôler l'État en tant qu'appareil. Bien sûr, il y avait une résistance des autres partis politiques, de la société civile. Mais il y a un deuxième élément qui est très important. C'est qu'avec Ben Ali, si on parle d'un héritage de Ben Ali après la révolution, c'est ce qu'on appelle l'économie de la rente. Ça veut dire ces entreprises, ces familles ou ces hommes d'affaires qui bénéficiaient de leur proximité du pouvoir. Quand le mouvement Nahda est monté au pouvoir, et il a montré c'est lui qui peut conduire l'État là où il veut, en parlant de légitimité électorale et tout, toutes ces entreprises et tous ces hommes d'affaires se sont lancés derrière Nahda.
Merci beaucoup.
En 2014, Nida Tounes aussi a refait la même chose. Il a reproduit la problématique du pouvoir à travers le mot consensus avec les islamistes.
Merci, monsieur. On va revenir à vous. Il faut permettre qu'on fasse un tour de table. Est-ce que vous avez la même analyse, monsieur Belkodia, que monsieur Hawat? Monsieur Lifsi, pardon.
Absolument.
Oui.
Je partage absolument tout ce qui a été dit jusque-là. Pour essayer d'ajouter quelque chose à ce qui a été dit, il y a eu, avec l'arrivée de Nahda, il y a eu en fait un terrible problème de compétences. C'est-à-dire que la Tunisie avait besoin de d'une nouvelle vision. Elle avait besoin de politiques dans tous les départements, hein, du transport à l'éducation. Elle avait besoin de nouvelles politiques, elle avait besoin d'un nouveau souffle. Or, c'est une équipe complètement aride.
Vous l'avez dit, peut-être plus de technocrates que de politiciens dans les appareils d'État. Une dépolitisation des institutions.
Oui. Non, moi, pour moi, un politicien se doit d'être un technocrate. Il se doit de connaître l'État, l'histoire et les possibilités plus que les autres. Donc, ce n'est pas un problème technocrate. C'est un problème de qualité des hommes politiques qui sont arrivés après la Révolution. D'ailleurs, je vais vous dire, la Révolution n'a rien à voir avec ces hommes politiques-là. Pour moi, je ne sais pas si les invités sont d'accord, mais pour moi, la Révolution s'est arrêtée le 14 janvier au soir, parce que le 14 janvier au soir, les Tunisiens avaient tous leurs droits. Ils avaient le droit politique, ils avaient le droit d'expression, tout était déjà assuré, il fallait juste valider juridiquement. D'ailleurs, ils ont mis 3 ans pour valider juridiquement les islamistes, enfin... La constituante a mis 3 ans pour valider constitutionnellement des droits qui étaient déjà acquis
dès
le 14 janvier.
Merci.
Au soir, oui, ils étaient acquis. Donc on a perdu un temps fou. Et pendant ce temps, les rentiers se sont remis dans le jeu avec les nouveaux pouvoirs, etc. Et la Tunisie n'a fait que péricliter.
Merci beaucoup. Monsieur Hawat, on entend beaucoup de Tunisiens dire à propos du bilan aussi que oui, on a eu le droit de parler, nous sommes libres, mais nous manquons du pain, nous n'avons pas à manger.
Ben oui, c'est un bilan négatif. Et tout simplement parce que les gouvernements successifs en Tunisie, il n'y en a pas un seul, il y a plusieurs gouvernements, ce sont des hommes qui manquent d'expérience. Ce sont des gens qui n'étaient pas déjà rodés dans l'expérience étatique. Ils arrivent et la première chose qu'ils vont faire, c'est l'amnistie générale. Faire sortir, vider les prisons. Alors, ces prisons-là, qu'il y a des gens qui sont vraiment de vrais terroristes, qui sont sortis de prisons. Et d'autre part, après, il y a l'indemnisation de ces gens. Alors, la cagnotte tunisienne est répartie entre ces gens-là. Donc, il y a un manque à gagner pour l'État tunisien. Et au lieu d'investir l'argent qu'ils ont réussi à avoir du Golfe ou de l'Europe ou des États-Unis, au lieu de penser à l'investissement...
Et injecter dans l'économie ?
Oui, ils ont mettre dans l'économie, non. Ils ont partagé la cagnotte entre eux. Et c'est ainsi, il y a eu, avec le contrôle de Nahda, il y a des gens qui disent pourquoi pas moi. Alors tout le monde souhaite avoir une part du gâteau.
Merci beaucoup.
Oui, et d'autre part, il y a le tourisme qui est en arrêt.
Qui est en chute libre. Aussi à cause des attaques terroristes qui se sont multipliées après la Révolution. Nous allons marquer une petite pause, messieurs, et je vous retrouve dans un instant pour la suite de ce débat sur Africa Radio.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et sur votre radio, dans votre émission, nous débattons ce soir du bilan des 10 ans du départ, 10 ans après le départ de Ben Ali en Tunisie, de départ du pouvoir de l'ancien président. Merci à nos invités qui sont en ligne, Abdelaziz Belkodia, écrivain, co-auteur de l'ouvrage 14 janvier, l'enquête, Firas Kefi, journaliste et activiste politique, Mohamed Larbi Hawat, chercheur en sécurité, et Abdel Tifi, historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à Paris 3. Je vais me retourner vers vous, Firas Kefi, qui est à Tunis. Vous parliez tout à l'heure de manifestations, des blessés de la Révolution. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? Est-ce que ce sont des personnes qui se sentent oubliées par les autorités ?
L'origine de la manifestation, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu aussi le 17 décembre, aussi autre date symbolique de la révolution tunisienne. Il faut dire en réalité que l'enjeu mémoriel aussi, on parlait de comprendre de ce qui s'est passé en fait. On avait aussi besoin de comprendre ce qui s'est passé avant la révolution aussi. Et la justice transitionnelle et la révolution dont fait partie la justice transitionnelle a été une des questions sur lesquelles l'État a piétiné. Il faut dire en réalité que en 2014, avec l'accession au pouvoir de Nidé Thoune, ce parti, avec le consensus, a mis beaucoup de freins au processus. Il y a eu quand même des avancées, des procès qui sont en cours pour juger les responsabilités, dire la vérité, mettre aussi les garanties de non-répétition des exactions et évidemment l'indemnisation des blessés, des victimes. Merci. de toute cette époque. Donc ce processus piétine toujours et cette manifestation vient de là.
Je viens donc rappeler aux autorités qu'il y a des personnes oubliées par la révolution. Monsieur Tifi, vous allez nous quitter dans un instant. Alors je vous donne la parole avant que vous ne partiez. Le journaliste Firas Kefi parlait en début de ses propos de bilan mitigé de la révolution. Quels sont d'après vous les gains de ce départ de Ben Ali?
Oui, je voulais préciser quelque chose dans mon ancienne intervention et ça a été confirmé par nos invités, nos amis que je salue. En fait, la vie politique en Tunisie depuis octobre 2011, elle ne tourne pas autour des vrais objets d'une transition démocratique. Les vrais objets du politique dans une transition démocratique, c'est d'assurer la transition démocratique à travers une reconstruction juridique et institutionnelle qui est en panne jusqu'à maintenant. La deuxième chose, c'est la gestion des affaires publiques, ça veut dire l'économie, le chômage, tout ce qui va avec ça. Pourquoi ? Parce que la vie politique en Tunisie, depuis octobre 2011, elle tourne autour de la question du pouvoir. Mon ami a parlé de la médiocrité des personnes placées, par exemple, politiquement au sein de l'État, dans les gouvernements, parce que le critère du choix dans la vie politique tunisienne, ce n'est pas le projet, ce n'est pas la compétence, mais c'est l'allégeance.
Mais en même temps, il y a des élections qui se tiennent et quand un parti gagne les élections, il faut bien qu'il place ses choix, qu'il fasse ses choix et que ces personnes-là occupent les fonctions de direction.
Justement, le problème, c'est que ce sont des partis qui sont là sans projet. Là, je vous dis, la première chose, ils sont sans projet, malheureusement. La deuxième chose, par exemple, je vous donne un exemple. Le seul parti qui doit donner son vote et sa fatwa sur le ministère qui détient le ministère de l'Intérieur et de la Justice, c'est le parti NAD. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question derrière, c'est le contrôle de l'appareil de l'État. Autre chose, vous parlez d'élections. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y avait un rapport de la Cour des comptes dernièrement qui a remis en cause le financement du parti Nahda, comme le parti, son allié actuellement, qui s'appelle Qalb Tounes, cœur de la Tunisie, qui représente dans les médias et tout la corruption. Ça aussi, on est en train de vivre une situation électorale dans le sens technique du terme.
Excusez-moi, monsieur Tifi, on va passer la parole aux autres, mais est-ce que vous voulez dire que la révolution ou les 10 ans n'ont rien produit de positif?
Non, pas du tout. La première chose, pour moi, la révolution a eu lieu. La révolution, elle s'est arrêtée le 14 janvier. Il y a eu une passation de pouvoir démocratiquement dans le cadre de la culture de l'État après le 14 janvier. Après octobre 2011, malgré toute l'analyse que je viens de présenter, il y a un ancrage des libertés, il y a une vivacité de la société civile en Tunisie, sachant que aussi il y a des gains historiques et civilisationnels.
Merci.
Le seul pays arabo-islamique qui a mis sur la table de la discussion la place de l'islam, c'est la Tunisie. Le seul pays qui peut gagner des élections et qui peut écarter les islamistes démocratiquement, c'est la Tunisie.
Et aussi les droits des femmes, depuis Bourguiba.
Des droits de femmes.
Merci beaucoup.
qui vont être ancrés dans l'histoire.
Merci beaucoup, Monsieur Tiffy, d'avoir participé à ce débat. Nous allons vous laisser partir. Merci en tout cas à vous. Nous allons poursuivre avec les trois autres invités. Monsieur Hawat, est-ce que vous pensez, vous aussi, que finalement le départ de Ben Ali n'a rien changé et n'a rien apporté de positif sur la Tunisie?
Vous savez, vous avez posé la question, les oubliés de la révolution. Eh ben, les oubliés de la révolution, c'est la Tunisie. C'est elle-même, on a oublié qu'on a fait, qu'ils ont fait la révolution pour la Tunisie. C'est ça tout le problème.
Et les responsables, d'après vous, de cet oubli, c'est la classe politique. Monsieur Tiffy pointait du doigt de manière insistante le parti Ennahda. Ennahda ne gouverne pas seul, il y a d'autres partis en Tunisie.
Oui, mais la question c'est que qui gouverne les gens? Vous savez que la tranche d'âge de ces gens-là sont de mon âge.
Mais en même temps, ils sont élus. En même temps, ils sont élus, M. Hawat.
Il y en a très peu. Très peu de jeunes.
Oui, mais ils sont élus.
Pour les jeunes.
Ils sont élus. Oui. La population tunisienne est essentiellement jeune, mais pourtant, ce sont ces mêmes Tunisiens qui accordent leur voix aux responsables de ces partis que vous trouvez grabataire, que vous dites vieux.
Oui, mais la question, c'est que non seulement ils sont vieux, mais ils ne sont pas expérimentés. C'est ça, il y a deux choses négatives à la fois.
Merci.
Être vraiment de
donc si j'ai bien pour me résumer pour vous le bilan des 10 ans c'est zéro.
C'est négatif.
Merci.
Non
c'est Monsieur Belkodia. Allô Monsieur Belkodia.
Oui je suis là. Concernant le 10 ans après la révolution, le bilan, oui, il est absolument négatif, bien sûr, sauf au niveau de la démocratie. Mais même cette démocratie a été assise d'une très mauvaise manière. C'est-à-dire, bien sûr, aujourd'hui la Tunisie est une démocratie, mais rien ne fonctionne, rien ne marche.
Mais on parle aussi de liberté de presse et d'expression qui sont garanties qui ont été d'ailleurs protégées par la Constitution votée en 2014.
Oui. Côté démocratique, c'est très bien. Il y a encore des choses à faire, mais la base est là. Toutes les libertés sont là. C'est très, très important. Mais le problème, c'est un problème de vie de tous les Tunisiens. La vie de tous les Tunisiens est devenue de plus en plus difficile. Pourquoi, en fait? Parce que pendant les 60 premières années à peu près de l'indépendance, la Tunisie était un pays non démocratique, mais elle possédait un État qui était très fort. C'est-à-dire que c'était un État qui était capable de construire, qui a été capable de faire une éducation de qualité, qui a été capable de mettre un pays debout.
De donner du travail aux jeunes. Le taux de chômage en 2020 est de 15%. Et ça, c'est avant le Covid.
Oui, avant le Covid. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'après la révolution, le système politique qui a été choisi, qui est un système parlementaire, et qui est un système qui dilue la responsabilité. Par exemple, aujourd'hui, le parti qui gagne les élections ne peut pas gouverner seul. Donc, il a toujours une excuse de dire qu'il n'a pas pu appliquer son programme parce qu'il y a d'autres partis qui sont avec lui, etc. Le régime politique n'est vraiment pas adapté à la situation, c'est-à-dire celle d'un pays qui a véritablement besoin de beaucoup travailler pour se remettre debout.
Merci.
C'est un régime qui pousse à la corruption, qui pousse aux arrangements et qui est incapable de définir une politique précise dans quelques domaines que ce soit.
Monsieur Kefi, vous aussi vous rendez responsable la classe politique de la situation actuelle, et aussi vous qui êtes journaliste, je voudrais que vous me donniez votre appréciation sur cette liberté de presse. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que cet acquis a été un peu dilué, et même dilué d'ailleurs par les crises sociales que vit la Tunisie, que traverse la Tunisie depuis 10 ans?
sur la question de la liberté de la presse, c'est un acquis qui est indéniable aujourd'hui. C'est un des grands points positifs des 10 années, mais il faut toujours se rappeler que ce sont que 10 années et qu'il faut du temps pour mettre certaines choses, que la culture démocratique s'installe, qu'un changement des mentalités s'instaure aussi. Donc,
même si les syndicats de journalistes affirment que malgré ces avancées, les journalistes vivent toujours pour certains, hein, ou même la plupart, dans la précarité, avec des salaires très bas.
Il y a beaucoup de précarité. Effectivement, le syndicat pointe à raison justement ce point de la précarité. Les acquis sociaux des journalistes ne sont pas toujours garantis et ont été sujets à débat très récemment dans ce sens-là. Et il y a des avancées concrètes dans ce sens. Mais ce qui est du genre à parler d'une pluralité de la presse, il en existe, même si c'est contrôlé par parfois aussi les partis corrompus, comme Kalptouns qui possède une télévision qui a été condamnée par l'institution étatique de régulation qui s'appelle
dont le patron a été écarté des élections. Voilà. Mais justement, est-ce que cette crise, est-ce que cette avancée n'est pas diluée un peu dans les échecs sur les autres plans, notamment socio-économiques?
Évidemment, parce que voilà, pour le commun des Tunisiens, il faut s'exprimer, mais il faut manger également. Et la mauvaise gestion qui a été opérée sur les dernières années, à cause aussi d'un régime politique parlementaire qui est inédit et que Narva a un peu piraté d'une certaine manière, de manière à se soustraire de la responsabilité. Mais voilà, il y a un manque de vision aussi politique pour certains partis. Il faut aussi dire que, au niveau politique, la gauche a perdu beaucoup de son crédit au fil des années et aujourd'hui, même sur au niveau des idées, si on prend les partis politiques en présence, ça varie de centre gauche jusqu'à extrême droite. Donc le spectre n'est pas aussi progressiste pour la Tunisie et libertaire qu'on pourrait le penser. Et c'est peut-être un des enjeux futurs que des forces politiques nouvelles peut-être apportent une nouvelle réponse, parce que la société tunisienne commence à avoir ras-le-bol de cette classe politique.
Merci.
Qui finalement ne tient pas ses promesses.
Député. Monsieur Belkodja, en passant au crible aussi, hein, le système sanitaire tunisien, on se rend compte qu'il y a beaucoup à redire et qu'il s'est davantage effondré. Et avec l'épidémie de coronavirus, 3632 nouvelles contaminations rien que le mardi 12 janvier, c'est dire que là aussi, il y a beaucoup à redire. Le bilan n'est pas rose.
Oui, absolument. Mais c'est un tout. Vous savez, il y a eu, je crois, 11 ou 12 ministres de la Santé en 10 ans. Il y a eu un manque effroyable de moyens. Il y a eu des départs de centaines, sinon de milliers de médecins et même d'infirmiers qui sont partis à l'étranger. Les hôpitaux sont vraiment dans un état lamentable. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un médecin qui est tombé dans une cage d'ascenseur qui était ouverte, qu'il n'y avait même pas de porte fermée et qui est mort.
Mais comment expliquer cette dégradation de structures sanitaires, des infrastructures sanitaires, alors que sous Ben Ali, la Tunisie était comme le hub pour plusieurs pays d'Afrique subsaharienne?
Oui, absolument. D'ailleurs, beaucoup de gens, même européens, venaient se soigner en Tunisie. Vous voyez toute cette désorganisation, c'est ce qui a frappé l'État tunisien après 2011. Vous savez, les responsables ne connaissaient pas le fonctionnement de l'État, les responsables qui sont venus après 2011. Et il y a eu une course effrénée vers le pouvoir. Mais cette course, malheureusement, elle a été faite sans les gens qu'il fallait, c'est-à-dire les véritables commis de l'État et les gens qui savaient gérer.
Il n'y avait pas de compétences. On va marquer une dernière pause, mais si on se retrouve pour la suite de ce débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir de la Tunisie. Comment se porte le pays 10 ans après la chute de Ben Ali, avec Mohamed Larbi Hawat, chercheur en sécurité, Firas Kefi, journaliste et activiste politique, et Abdelaziz Belkodia, écrivain co-auteur de l'ouvrage 14 janvier, l'enquête. Firas Kefi, je voulais qu'on parle un peu de la situation politique aujourd'hui dans votre pays. On mentionnait des crises sociales interminables, l'économie qui est dans le rouge, la dégradation, Monsieur Belkodia le disait, des infrastructures éducatives et hospitalières, sans compter le terrorisme. Comment relancer la Tunisie aujourd'hui? Est-ce que c'est la seule responsabilité des acteurs politiques?
Évidemment, le changement est le fruit de politique. Il ne peut venir que par le politique. Donc, évidemment, c'est la responsabilité des protagonistes politiques de faire avancer ces choses. L'idée que les infrastructures soient usées aujourd'hui, et on l'a vu avec la situation pandémique, les structures de santé sont quasi désuées. Il y a beaucoup d'inégalités régionales dans ce sens. Et on constate aussi une inefficacité de l'État au niveau, par exemple, fiscal, où des montants colossaux disparaissent dans la nature chaque année, qui pourraient reconstruire des écoles, remettre des hôpitaux en place. Donc, ces actions politiques se font attendre, et les élections se suivent et un peu se ressemblent, et on constate une abstention de plus en plus forte. En plus des dernières élections de 2019 qui ont donné aussi un paysage politique très morcelé, qui représente un spectre politique très varié et dans lequel il est un peu difficile de trouver une structure politique cohérente pour un programme politique cohérent. Donc tous ces efforts se sont perdus dans cette année qui s'est écoulée, parce que les dernières élections c'était en 2019. Donc voilà. Ce sont ces partis-là qui doivent trouver des solutions, parce que même au cas, parce qu'on parle en situation de blocage, de refaire des élections, de dissoudre l'Assemblée, etc., même cela, je ne pense pas que le résultat serait aussi différent. C'est la responsabilité des protagonistes actuels de trouver des solutions concrètes, et ceci passe par plusieurs choses. Il y a juste un dernier point, les institutions constitutionnelles aussi, l'application de la Constitution, qui doit être aussi quelque chose qui est mis en place. La Cour constitutionnelle n'est pas toujours là, et plusieurs autres instances également. Donc ce sont aussi des actions politiques qu'il faudrait faire pour améliorer la vie des Tunisiens.
Monsieur Hawat, justement, pour le 10e anniversaire, la quasi-totalité des partis politiques se sont engagés à unir leurs forces pour poursuivre la voie révolutionnaire, consolider, disent-ils, les valeurs de la démocratie et parvenir au développement, que ce soit le Parti républicain, Ennahda, ou le Parti des travailleurs, ou le Parti national démocrate. Unis, tous ont tenu le même langage. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il peut y avoir un consensus désormais autour du développement pour enfin donner un bilan plus positif de la révolution tunisienne?
Le bilan positif de la révolution tunisienne ne peut être vraiment le résultat d'un travail qui consiste à l'aménagement du territoire, parce que l'aménagement du territoire, il est vraiment en chaos. Et mettre les sources de l'économie nationale en marche. Comme je vous ai dit, le phosphate, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas d'exportation. Ou l'exportation est très limitée. Et d'autre part, le tourisme est bloqué. Donc, bloqué par quoi? Bloqué par la sécurité. Donc il y a ces deux mannes de la Tunisie, phosphate et tourisme. Tant qu'on n'a pas réussi à mettre en marche ces deux moteurs économiques, on ne peut pas arriver à avoir. Et d'autre part, c'est limiter le recrutement des fonctionnaires d'État avec des gens n'importe qui. Il faut essayer de voir vraiment un recrutement de qualité.
Merci
et non
beaucoup.
Pas n'importe qui va faire le travail.
Voilà. Et éviter le clientélisme que vous reprochez.
Oui, c'est ça tout le problème.
Merci. Pardon de vous couper, le temps file très vite. Mais Monsieur Belkodia, en quelques mots, hein, les ingrédients qui ont entraîné la révolte de 2011 semblent de nouveau réunis aujourd'hui. Est-ce que la Tunisie est à l'abri d'une seconde révolution ?
Il y aura sûrement beaucoup de mouvements sociaux, mais une révolution, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que en 2010 et 2011, les Tunisiens avaient un ennemi commun, et c'était Ben Ali, c'était la dictature, c'était les profiteurs, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est que cet ennemi commun n'existe plus, qu'il est dilué. C'est
l'ennemi est multiforme, selon vous ?
Voilà, exactement.
Il n'y a plus un seul ennemi, mais les ennemis.
C'est-à-dire que c'est vraiment dilué, complètement dilué. Le Tunisien, aujourd'hui, ne sait plus. Alors, il se venge sur les politiques, certainement, mais je ne sais pas si une révolution peut se faire dans un pays qui est aujourd'hui quand même démocratique. Une deuxième révolution, quelles vont être les revendications ? Il faudrait qu'il y ait beaucoup mieux qu'une révolution, il faudrait qu'il y ait un plan précis, quelque chose de clair, un plan politique, des réformes sur lesquelles les gens peuvent s'entendre. Mais une révolution dans un pays démocratique comme la Tunisie, pourquoi ? Pour revendiquer quoi ? Ce sont juste des revendications sociales et économiques qui ne sont pas dans le cadre d'une révolution.
Est-ce qu'on peut envisager une situation comme on en a vu au Burkina, où après la chute de Blaise Compaoré, son parti au départ banni est en train de se reconstituer et est même devenu la principale force politique de l'opposition. Est-ce que le RCD, on peut envisager cela peut-être avec une renaissance du RCD, le parti de l'ancien président, du président déchu Ben Ali ?
Écoutez, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Les sondages donnent entre 30 et 40% à Mme Abdel Moussi, qui se revendique directement du RCD. Et donc, il y a le ras-le-bol a fait en sorte que les gens sont prêts à revenir en arrière. Par contre, moi, je considère que c'est un non-sens historique. Je considère que si on retourne en arrière, on ne peut pas retourner vers le même régime dans lequel on était. C'est impossible, personne ne l'accepterait. Donc il y aura certainement, il y a en ce moment l'équivalent du RCD qui est en train de se remettre debout, mais
merci.
Bon, il faudrait franchement revoir beaucoup
merci.
De choses, sinon
merci.
C'est complètement invivable.
Merci beaucoup à vous messieurs, merci Abdelaziz Belkodia, écrivain, co-auteur de l'ouvrage 14 janvier, l'enquête à Firas, merci à Firas Kefi, journaliste et activiste politique à Tunis, Mohamed Larbi Hawat, chercheur en sécurité et président de l'association de solidarité pour l'intégration par les langues, l'éducation et la culture, et à Abdel Tifi, historien, qui est parti il y a quelques instants. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa Radio. Bonsoir.